Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très joyeux sabbat. L'apôtre Paul est un personnage très important dans le Nouveau Testament. Il a écrit, sous l'inspiration divine, une très grande partie du Nouveau Testament. Ses épîtres donnent une grande partie de l'instruction que nous avons, et beaucoup de questions doctrinales y sont expliquées également, ainsi que des questions pratiques de la vie chrétienne de tous les jours. Il est l'acteur principal dans le livre des Actes des Apôtres, non pas le seul, mais principalement. Donc un homme dont Dieu s'est servi pour accomplir une très grande œuvre. Mais à cause de la manière et le moment que Dieu l'a appelé, Paul n'aurait peut-être pas pu servir comme il l'a fait si ce n'était pour un autre homme que Dieu a utilisé. Un autre homme qui avait des qualités spirituelles différentes de Paul, mais très nécessaires également, et qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup moins écrit dans la Bible à propos de cet homme. Il n'avait pas les mêmes talents que l'apôtre Paul. Mais il avait plusieurs qualités clés dont l'Église a besoin pour bien fonctionner. Nous devons pouvoir profiter de ces capacités dans l'Église pour le bien-être de tous. C'est cet homme-là, la vie de cet homme-là, que je vous propose de regarder aujourd'hui. Et nous pouvons commencer cette histoire dans Actes chapitre 7, où nous avons le récit du meurtre d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Il est tué à la fin du chapitre 7, et puis au chapitre 8, verset 1, nous apprenons une nouvelle importante, un détail important. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul a donné son accord. Il était d'accord avec le meurtre d'Étienne, et Saul était un personnage éminent dans la vie juive à Jérusalem de l'époque. Ce n'est pas un début très propice pour un homme que Dieu va utiliser pour accomplir une très grande œuvre, n'est-ce pas? Pas très prometteur ce début de l'histoire de Saul ici dans le Nouveau Testament. Mais Dieu a vu les choses d'une manière différente. Il voyait les choses autrement, comme il le fait souvent d'ailleurs comparé aux êtres humains. Il fait comme ça avec nous aussi. Il voit des potentialités en nous que nous ne voyons peut-être pas. Alors chapitre 9 maintenant, poursuivons. Chapitre 9, verset 1 du livre des Actes des Apôtres, et nous allons poursuivre notre histoire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » L'appel sur le chemin de Damas de Saul, qui va bientôt devenir Paul, l'apôtre Paul. Maintenant, verset 10. Le plan de Dieu se déroule. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa les mains, afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, et c'est très compréhensible, n'est-ce pas? Ben, Seigneur, j'ai appris que plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Eh bien, c'est facile de comprendre l'hésitation de Ananias. Saul doit être converti, il doit être baptisé et converti, mais on peut comprendre les hésitations d'Ananias, n'est-ce pas? Tu veux que j'aille rendre visite à qui? Et il aurait pu poser la question. C'est pas très prometteur de faire comme cela. Mais, comme j'ai dit, Dieu voit des choses d'une autre manière. Mais si Saul changeait d'avis de nouveau, s'il redevenait comme il était avant, Ananias avait peur. Il est intéressant de noter comment Dieu a agi dans le cas de Saul. Si nous voyons un homme en train de détruire l'Église, d'arrêter, même mettre à mort certains des membres de l'Église, nous pourrions penser, ça serait peut-être ma première pensée, mais je vais prier que Dieu l'enlève par un accident ou par une maladie pour qu'il arrête de faire souffrir mes frères et sœurs dans l'Église. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a fait. Il a converti à la place. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, il veut que les pécheurs se repentent. Et il a donné l'occasion à Saul de faire cela. Il veut leur repentance. Allons maintenant au verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour tuer Saul. Parce que maintenant, il commençait à prêcher au nom de Jésus-Christ. Il prêchait l'Évangile. Là où avant, il essayait de l'arrêter, maintenant, inspiré par Dieu, il le prêchait avec entrain. Verset 24. Et le complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Ça, c'est digne de James Bond, n'est-ce pas? Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Qu'est-ce que nous, on aurait ressenti dans une telle situation? Un homme comme ça qui a fait de telles choses, il se présente à notre assemblée. Quelqu'un qui a peut-être fait arrêter un proche parent à vous ou à moi, qui l'avait fait emprisonner, peut-être exécuter. Comment est-ce que nous, on réagirait dans une telle situation? Eh bien, regardons la réaction de Barnabas. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas l'a accepté. Il s'est porté garant pour cet homme nouvellement converti. Il a dit, en effet, je pense qu'il est sincère, nous devons l'accepter, nous devons le faire entrer parmi nous. Maintenant ici, c'est la deuxième référence à Barnabas que nous avons dans la Bible. Et nous verrons la première mention de lui dans un instant. Mais ce que nous voyons à propos de Barnabas jusqu'ici, c'est qu'il se montre un homme de courage, un homme plein de foi. On aurait besoin de courage et de foi pour agir, pour prendre le risque, entre guillemets, qu'il a pris ici en faisant entrer Saul. Il avait les qualités nécessaires pour pardonner dans son esprit ce que Saul avait fait. Et il est ainsi un merveilleux exemple de plusieurs qualités dont nous avons besoin dans l'Église aujourd'hui. Des qualités comme l'humilité, comme un désir de réconciliation, de pardon, d'obéissance à Dieu, de l'engagement vis-à-vis de Dieu et de l'Église, de foi, et encore d'autres talents, d'autres dons également. Ce sont des dons que Dieu peut donner et que nous devons cultiver dans la mesure de notre possible. Plus nous avons ces qualités dans l'Église, plus forte sera l'Église de Dieu. Pendant que nous lisions tout ceci, pendant que nous lisons cet exemple, posons-nous la question, est-ce qu'il y a un Saul dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais donner une deuxième chance? Quelqu'un qui m'a fait mal? Quelqu'un dont j'ai peur? Ou quelqu'un que je n'aime pas à cause d'une blessure ancienne? Mais qui a peut-être changé entre-temps? Sommes-nous capables de pardonner dans de telles situations, de donner une deuxième chance? Dans quelle mesure sommes-nous disposés et capables de faire ce que Barnabas a fait, de se mettre entre deux personnes qui ne se faisaient pas confiance, deux personnes qui avaient besoin de réconciliation, et de faire ce qu'il pouvait pour effectuer cette réconciliation, de les réunir en tant qu'amis? Barnabas était disposé et il était capable de le faire. En fait, la Bible dit des choses assez impressionnantes à propos de Barnabas. Remontons à l'époque de la première fête de la Pentecôte du Nouveau Testament, quand les membres nouvellement convertis devaient être fondés dans la foi, quand ils avaient besoin d'être encouragés et éduqués dans la compréhension de la Bible qui était disponible maintenant à cause de la présence du Saint-Esprit. Pensons-y, il n'y avait pas à l'époque d'église déjà établie avec des membres de longue date à qui on pouvait poser des questions, comme est-ce qu'on doit faire ceci, comme est-ce qu'on doit faire cela. Il n'y avait personne qui était là depuis longtemps pour donner une stabilité à l'église, à qui on pouvait poser, comme j'ai dit, des questions que les nouveaux arrivés dans l'église ont. Même les ministres, à l'époque, étaient en quelque sorte des nouveaux convertis, dans un sens, puisque eux aussi venaient juste de recevoir le don du Saint-Esprit. Ils avaient donc besoin de passer un certain temps ensemble, tous les nouveaux frères et sœurs de l'Église, à Jérusalem, pour être fondés. Et là, ils pouvaient, une fois qu'ils étaient bien fondés dans la foi, ils pouvaient retourner dans leur foyer dispersé, rappelons-nous, dans beaucoup de pays très différents et très éloignés les uns des autres. Mais tous ne pouvaient pas payer leur séjour à Jérusalem. Il y avait des gens qui n'avaient pas assez d'argent avec eux, ils avaient prévu de rentrer déjà, ils n'avaient pas dans leur petite bourse assez pour rester, passer ces semaines ou ces mois à être fondés dans la foi. Donc, certains des membres de l'église plus fortunés à Jérusalem ont vendu des propriétés et d'autres biens qu'ils possédaient, et ils ont donné l'argent qui était récolté par ces ventes, ils ont donné cet argent aux apôtres pour répondre aux besoins de la nouvelle Église, pour permettre à l'Église d'être bien fondée et bien stabilisée. Et là, nous lisons dans Actes chapitre 4 comment cela s'est fait. Actes chapitre 4, à partir du verset 34. Actes chapitre 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour dire qu'il y a des chrétiens, des prédicateurs, chrétiens au sens large, qui prétendent que ça c'est une preuve que l'Église primitive pratiquait le communisme. Personne n'avait des choses à lui, on donnait tout et on distribuait à tout le monde. C'est vrai que pour ce petit groupe-là, pendant une courte période de temps, ils avaient tout en commun. Mais plus tard dans le Nouveau Testament, avec le temps qui avance, on voit que l'Église n'a pas continué toujours comme ça. Il y avait une situation unique ici qui a nécessité ces mesures, mais ça n'a pas continué, ça n'a pas duré dans le temps. Et finalement, plus tard, ça devient très clair que l'Église n'a pas pratiqué le communisme, mais chaque famille devait subvenir à ses besoins. Il y a beaucoup d'instructions là-dessus. Alors, verset 36 maintenant. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Intéressant, plusieurs personnes ont fait cela d'après les versets précédents, mais Joseph est le seul qui est mentionné par son nom. Il devait être vraiment exemplaire dans sa générosité et sa foi. Il faut dire qu'il faudra les deux, n'est-ce pas, pour vendre sa maison ou une de ses maisons et simplement donner l'argent à l'Église pour les besoins particuliers de ce moment-là. Et en plus, ils lui ont donné un surnom, un nom particulier décrivant ce don qu'il avait, ce trait de caractère qui était reconnu et admiré par ses frères et sœurs. Il était appelé Barnabas, ce qui veut dire fils d'exhortation. Seulement, ce mot peut être traduit de plusieurs manières selon le contexte. Monsieur Segond l'a traduit par exhortation. La version Darby traduit consolation. La nouvelle Bible Segond dit fils d'encouragement. C'est d'autres possibilités. Et la parole vivante, qui n'est pas très exacte dans ses traductions, mais a paraphrasé, cette fois-ci convenablement, Barnabas, ce qui veut dire celui qui console et encourage. Et il était connu pour cette qualité-là, cette qualité. Le mot dans le grec, c'est paraklesis. Paraklesis. Qui veut dire les mots que nous avons vus dans ces traductions, réconfort, consolation, exhortation, encouragement. Barnabas a montré ses qualités à un tel point qu'on lui a donné le surnom. Ça, c'est le paraklesis, lui. Et il est connu sous ce nom-là dans le livre des Actes. On mentionne son vrai nom seulement avant, Joseph. Mais après, on l'appelait Barnabas. Il est intéressant de noter que le même mot dans le grec, paraklesis, est utilisé par Jésus-Christ pour décrire le Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est le plus souvent traduit quand il est question du Saint-Esprit. Et Romains chapitre 15, verset 5, dit que Dieu est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Dieu est comme ça, il pratique la voie de paraklesis. Et ça, c'est le surnom qu'on a donné à Barnabas. Nous pouvons savoir donc qu'il était un homme chaleureux, il était encourageant, et il était positif dans son optique. Pas critique, mais bien le contraire. Il cherchait ce qu'il y avait de meilleur chez les gens. Il ne se fixait pas sur les erreurs ou sur ce qui était moins bien. Il était capable de regarder les gens sans préjugés, ni présuppositions à propos d'eux, et de donner souvent une deuxième chance. C'est pourquoi il a pu aider Saul. Il était reconnu, il avait bonne réputation, on lui faisait confiance, et il a pu donc aider Saul. C'est pourquoi aussi Dieu s'est servi de Barnabas pour aider à propager l'Église parmi les païens, parmi les gentils, les non-juifs. Il voyageait et travaillait souvent avec Saul, qui va devenir Paul. Nous devons nous rappeler que pendant, jusqu'ici, dans l'histoire de l'Église, tous les membres de l'Église étaient des Juifs qui étaient devenus chrétiens. C'était après tout, dans tout l'Ancien Testament, le peuple choisi de Dieu. Ils ne pouvaient imaginer que Dieu travaillerait avec des non-juifs, à moins que ces non-juifs deviennent d'abord juifs, des prosélytes, et alors ils pouvaient devenir chrétiens. Pierre avait une vision dans Actes chapitre 10. Rappelez-vous les animaux souillés et impurs, et la voix lui disait de manger tout ça. Il a dit non, j'ai jamais fait ça. La leçon était, quand nous arrivons à la fin de cette histoire de Pierre, sa conclusion, c'est que Dieu lui avait montré qu'aucun homme n'était souillé ou impur. La conclusion n'était pas maintenant vous pouvez manger tout ce que vous voulez, les animaux impurs sont devenus purs. Non, la leçon, ce que Pierre avait compris, c'est que maintenant Dieu allait travailler avec les hommes, quelles que soient leurs origines. Il n'y avait pas d'homme souillé ou impur en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne l'Église. Mais accepter cette idée était très difficile pour les Juifs chrétiens qui, depuis leur enfance, avaient inculqué cette idée que Dieu travaillait seulement avec les Israélites. Acte chapitre 11, nous allons avancer dans l'histoire maintenant, Acte chapitre 11, pour voir ce que nous pouvons apprendre autrement à propos de Barnabas. Actes chapitre 11, verset 18. Donc, on explique ce qui s'est passé avec les païens, les gentils qui étaient convertis, qui ont reçu le Saint-Esprit. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils étaient en colère avant d'apprendre ce qui s'était passé, et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». Ils ont dû surmonter cet patriotisme, on va dire, surmonter la fierté, même peut-être l'orgueil qu'avaient certains de faire partie de la nation avec laquelle Dieu travaillait, le peuple de Dieu, et pour accepter avec joie le fait que d'autres personnes allaient maintenant être converties et sauvées. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et en Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ils n'avaient pas cette nouvelle compréhension encore, ils n'avaient pas entendu. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Dieu montrait par ses conversions qu'effectivement, il avait maintenant ouvert le salut, la voie vers le salut, aux non-juifs. Le bruit, verset 22, en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Quand ils ont appris cette nouvelle, ce qui se passait, ils ont choisi Barnabas pour aller vérifier ce qui se passait. Aller voir sur place, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe là. Nous voulons avoir des nouvelles. Et verset 23, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Par les bons soins de Barnabas, par sa façon d'aborder les gens, par son encouragement, par sa chaleur, il a nourri cette église en naissance dans ces régions-là, dans cette région. C'est assez frappant, n'est-ce pas, que Dieu inspire à écrire dans la Bible des choses comme ça à propos d'un homme. Assez marquant, c'est une chose. Il avait apparemment besoin d'aide pour le travail qu'il faisait dans cette nouvelle région-là. Il avait besoin d'un adjoint. Et qui est-ce qu'il a choisi? Verset 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Saul devient son assistant, l'adjoint de Barnabas. Il va donner une seconde chance à Saul. Il y a donc maintenant deux ministres de l'Église à Antioche plutôt qu'un. Et quelque temps passe. Quand nous arrivons à l'époque de Actes chapitre 13, verset 1, quelque temps après, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, il y avait d'autres ministres capables d'enseigner. Plusieurs. Il y avait Barnabas, Siméon, appelé Niger, Niger qui veut dire noir, c'est peut-être un Africain qui est mentionné ici, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, donc quelqu'un de haut placé dans la société, et Saul. Et Saul. Donc, il y a plusieurs autres ministres maintenant. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, maintenant l'Église est établie, Antioche, il y a d'autres personnes qui ont pu être ordonnées et qui servent dans cette assemblée. Maintenant, Dieu décide qu'il va mettre, il va envoyer Saul et Barnabas, plutôt Barnabas et Saul, il va les envoyer sur une autre mission. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. En fait, il s'agit de Jean-Marc, certaines traductions le mettent d'autres noms, mais son nom en complet, c'était Jean-Marc. Et il était là pour les aider. Et maintenant, nous allons noter un changement qui va avoir lieu ici. Un changement qui est notoire par la réaction que Barnabas n'a pas eue. Actes chapitre 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, changement de nom maintenant, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Là, on voit un peu le caractère de Paul, de Saul et de Paul, un homme d'action. « Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Non seulement de la doctrine, mais ce miracle également. Un serviteur de Dieu qui peut déclarer un aveuglement sur quelqu'un qui mentait. Verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge et en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alors nous voyons plusieurs choses ici. Dans le passage que nous venons de lire, Saul est devenu Paul, parce que Dieu appelle les choses ce qu'ils sont. Et nous voyons aussi que Barnabas et Saul, ce qu'il y a eu jusqu'ici, c'était toujours Barnabas et Saul quand les deux sont ensemble. Maintenant nous lisons au verset 13, Paul et ses compagnons. Barnabas et Saul est devenu Paul et ses compagnons. Paul a pris les devants. Il était passé de paria à adjoint, maintenant il était le chef, si vous voulez, de l'équipe, le chef de l'équipe. Les positions sont inversées maintenant. Il semble que Barnabas est devenu une sorte d'adjoint pour Paul à partir de ce moment. Comment est-ce que vous et moi, comment nous sentirions-nous si nous étions à la place de Barnabas à ce moment-là, quand il y a eu un passage de pouvoir ou d'autorité? Il était le responsable de ce voyage évangélique. C'est lui qui s'est porté garant pour Paul et lui a permis d'être accepté par l'Église. C'est lui qui a introduit Paul dans le ministère, l'a fait venir à Antioche. Et maintenant, il n'était plus qu'une partie des compagnons de Paul. Seriez-vous blessé, parce que moi je serais blessé? Est-ce qu'on aurait l'impression d'être traité injustement? Moi j'ai l'ancienneté, j'étais là d'abord, c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui l'ai fait entrer. Est-ce qu'on aurait cette impression-là, vouloir promouvoir nos états de service? Pas Barnabas. Barnabas a décidé qu'il accepterait, avec humilité, la volonté de Dieu, de voir changer la situation. Et c'était manifestement la volonté de Dieu, il a accepté. Peut-être avait-il compris que Paul avait certains traits de caractère qu'il n'avait pas lui. C'est Paul qui a tenu en face à face avec ce magicien, pas Barnabas. Peut-être que c'était ça qu'il avait fait comprendre. Paul avait une éducation très poussée et un passé particulier. C'était peut-être ça qui a fait la différence. C'était peut-être la personnalité de l'apôtre Paul. Il était ce qu'on pourrait appeler un cracheur de feu, un type de volcan. Quand il se mettait en colère, les choses bougeaient. Ce qu'on appelle parfois une personnalité de type A, assez agresseur, agressif. Barnabas semble avoir davantage ce que nous pourrions appeler le type B, qui est plus cool, relax, pas aussi agressif. Il y avait une différence d'approche. Et puis, dernière chose que j'aimerais vous faire remarquer ici, c'est que Jean-Marc s'est séparé d'eux et il est retourné à Jérusalem. Il a abandonné sa mission au milieu de chemin. Nous savons que Jean-Marc était le neveu de Barnabas. Peut-être qu'il était offusqué de cette transition, que maintenant ce n'était plus son oncle qui était responsable, mais c'était celui qui avait été l'adjoint avant qui maintenant prend la tête des choses. Et il est parti. Il est parti, il rentre à la maison, c'est fini pour lui. Il y avait une différence d'approche entre Paul et Barnabas. Et on va voir cela jouer dans l'histoire de Jean-Marc dans quelques instants. Actes chapitre 14, maintenant, verset 19. Actes chapitre 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icone les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Il a dû être pas mal battu pour qu'on pense qu'il est mort. Il respirait à peine, ensanglanté certainement, parce que lapidé, on n'utilisait pas des gravillons pour lapider des gens, c'était de grosses pierres. Et on l'avait lancé suffisamment qu'on croyait qu'il était mort. Une des choses parmi d'autres que Paul a dû souffrir afin d'accomplir la volonté de Dieu. Verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Probablement un miracle là, où il est écrasé par des pierres au point qu'on pense qu'il est mort, et puis quand les disciples s'approchent, hop, il se lève et il entre en ville de nouveau. Différence d'approche. Barnabas avait l'humilité de Jean-Baptiste. Il acceptait que Paul prenne les devants, puisqu'il avait la personnalité et la force de caractère pour le faire. Barnabas avait l'humilité de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez ce qu'il a dit quand ses disciples à lui ont expliqué les miracles que Jésus-Christ accomplissait? Il a dit dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il a compris que c'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas une chose facile à l'être humain, encore moins pour nous autres hommes. Malheureusement, dans mon temps de service dans l'Église, j'ai vu plusieurs hommes claquer la porte parce qu'ils s'estimaient lésés, parce que quelqu'un d'autre, eux, ils étaient là depuis plus longtemps et pensaient que ça leur donnait le droit à toujours d'être le responsable. Alors que nous voyons ici que parfois Dieu décide autrement. Et c'est dommage de quitter l'Église et d'abandonner ce que Dieu veut nous offrir pour une question de prééminence parmi les hommes, qui va être le chef. Un jour, quelqu'un a demandé à un grand chef d'orchestre quel était l'instrument le plus difficile à jouer. Et il a répondu, deuxième violon. Maintenant, il faut savoir, ça c'est une expression en anglais qui veut dire prendre la deuxième place, prendre la place d'adjoint plutôt que d'être le chef. Et c'est vrai que deuxième violon, c'est un instrument très difficile à jouer. C'est vrai aussi pour nous dans la vie. Nous devons chercher à faire ce qu'il y a de mieux pour avancer l'œuvre de Dieu, même si cela implique de passer au second plan. J'ai trouvé une citation récemment qui m'a beaucoup frappé, qui tourne dans ma tête depuis pas mal de temps. Je trouve très incisif ce commentaire. C'est quelqu'un qui a dit à un ministre qui aurait dit à un moment donné, « Je n'étais pas très utile jusqu'à ce que j'arrive à comprendre que Dieu ne veut pas que je sois un grand homme. Dieu ne m'a pas destiné dans cette vie à être un grand homme. » Et quand j'ai compris ça, j'ai accepté, là j'ai pu vraiment rendre service. Et je trouve que c'est une attitude qui est à émuler pour nous. Un autre exemple intéressant. Nous avons vu que Jean-Marc a abandonné la mission et il est rentré chez lui. Il avait été l'adjoint de l'assistant de Paul et de Barnabas, et puis, pour une raison inconnue, il rentre à la maison. Il a abandonné son poste, nous l'avons lu. Barnabas, c'est normal pour Barnabas, il voulait lui donner une deuxième chance, une seconde chance. Actes chapitre 15, verset 36. Actes chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. C'était suffisamment important à Barnabas de donner une deuxième chance, apparemment à son neveu, qu'il a décidé, très bien, nous allons nous séparer pendant un temps. Et je vais donner cette deuxième chance à Jean-Marc. Paul, verset 40, choisit Silas et il partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Et vous savez quoi? Barnabas avait raison. Barnabas avait raison. Peut-être pas immédiatement là sur le coup, ça nous ne pouvons pas dire avec certitude. Mais plus tard, nous apprenons que Jean-Marc était devenu très utile à Paul et au ministère qui s'accomplissait. Regardez 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 11. C'est Paul maintenant qui écrit à Timothée. Il dit, verset 11, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » C'est la même personne, Jean-Marc. « Prends, amène-le avec toi parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Jean-Marc est devenu un serviteur, un adjoint utile à Paul plus tard. Et c'est Barnabas qui voulait, encore une fois, lui donner encore une chance. Et c'est probablement, beaucoup de commentateurs croient que c'est ce Marc-là qui a écrit l'évangile de Marc. C'était le Jean-Marc qui voyageait avec eux. Il aurait eu une connaissance en personne de beaucoup de choses qui se sont passées avec le ministère-là. Et il connaissait les personnes qui pouvaient interviewer pour savoir ce qui s'était passé pendant la vie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans l'Église de Dieu, nous avons besoin de beaucoup de fils d'encouragement et de consolation. Nous avons besoin de Barnabas dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Paul a reconnu ce fait. Il est très important que nous ayons de la consolation et du réconfort dans l'Église de Dieu. Et il est important à chacun de nous de faire ce qu'il peut, ce qu'elle peut, pour développer cette qualité. Maintenant, nous savons, de par nos personnalités, ce sera plus facile à certains qu'à d'autres. Mais tous, nous pouvons nous améliorer dans ce domaine. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Paul va parler de cette consolation qu'il nous faut entre nous dans l'Église de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dieu nous console. À nous de nous consoler les uns les autres, et en particulier ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans l'affliction. Là, c'est dans ces moments-là que nous avons beaucoup besoin de paraclésis. C'est le même mot ici, de paraclésis. Nous devrions adopter à nous, dans la mesure de nos possibilités, le rôle de Barnabas. Hébreux chapitre 3, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 3. Verset 13. Verset 13 de Hébreux 3, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous, paraclésis, de nouveau. » Peut-être que nous avons une meilleure idée maintenant de ce que signifie consolation ou exhortation, puisque c'est ça que certaines Bibles disent ça, traduisent comme ça ce mot. Et quand on entend exhortation, peut-être que nous pensons à quelqu'un qui va vraiment sermonner quelqu'un d'autre. Exhorter, il faut mieux faire. Mais en fait, maintenant que nous avons vu le caractère de Barnabas et que nous avons vu plusieurs illustrations de ce que veut dire ce mot, nous pouvons mieux comprendre ce que nous devons faire les uns aux autres quand nous sommes ensemble. Pas nous sermonner, nous corriger, mais nous encourager, nous consoler dans l'affliction. Nous encourager, nous consoler par des mots positifs, par des mots encourageants. Voilà ce que nous devons faire les uns envers les autres. C'est quelque chose de, comme nous sommes en train de voir, de très important aux yeux de Dieu et pour le bon déroulement des affaires de l'Église. Tournons encore quelques pages dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, paraclésis, réciproquement, encourageons-nous, consolons-nous, et en faisant cela, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand nous avons le privilège d'être ensemble, entre frères et sœurs, à une assemblée de l'Église, nous n'y allons pas uniquement pour entendre le sermon. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous allons à l'assemblée. Sinon, nous pourrions rester chez nous et écouter un enregistrement. Et malheureusement, c'est parfois ce que nous sommes obligés de faire. Mais nous venons ensemble. Nous formons une assemblée pour écouter les enseignements, mais aussi pour le temps que nous passons ensemble avant et après l'assemblée. Quand nous pouvons nous exhorter, nous pouvons nous encourager, nous pouvons nous consoler. Et c'est pour cela que c'est très important de ne pas abandonner l'assemblée. Nous n'allons pas à l'assemblée pour que l'orateur puisse nous servir, uniquement. Nous y allons aussi pour servir d'autres personnes, par nos conversations, par nos mots, par nos propos. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est malheureusement la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous voyons s'approcher le jour beaucoup, beaucoup plus qu'à l'époque quand ces mots ont été écrits pour nous. Alors à nous vraiment d'être assidus à l'assemblée quand nous avons la possibilité physique de le faire. Il y a la maladie, il y a l'éloignement, tout cela se comprend. Mais quand nous avons la possibilité de le faire, nous profitons personnellement et nous profitons aux autres également par notre fraternisation. Nous avons des responsabilités à l'assemblée. 2 Corinthiens chapitre 4, pardon, chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 4. Et encore Paul qui écrit, « J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Nos exemples peuvent représenter une consolation pour nos frères et sœurs dans d'autres régions du monde. Je le vois, moi qui voyage beaucoup au nom de l'Église, je vois des frères et sœurs dans des pays nantis consolés à la pensée qu'il y a des frères et sœurs dans des pays en voie du développement qui tiennent bon malgré les difficultés posées par la vie dans certains de ces pays. Et je vois aussi la consolation ressentie par nos frères et sœurs dans ces pays en voie du développement qui notent la générosité de leurs frères et sœurs dans d'autres pays, qui mettent à disposition ce qu'il faut pour que des ministres puissent voyager et leur rendre visite, que nous les aidons parfois à avoir une salle où ils peuvent tenir des assemblées. Cela est fourni par la générosité et l'engagement des frères et sœurs dans les pays nantis. Nous pouvons être une consolation les uns pour les autres. C'est une chose à garder à l'esprit quand nous pensons à notre participation à l'Église, notre dévouement au service de Dieu. Et un dernier passage dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ce que nous voyons dans cette exhortation au début, je vous exhorte, je vous console, je vous encourage, il dit, le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous avez reçu un grand appel. Soyez digne de cet appel que Dieu vous a adressé. Et dans nos rapports les uns avec les autres, verset 2, en toute humilité et douceur, comme Barnabas, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand nous sommes en paix entre nous, quand nous gardons la paix entre nous, eh bien, nous conservons l'unité de l'esprit. Et ça aussi, c'est un rôle et une responsabilité importante. Verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Autre façon de dire la même chose, de se traiter avec cette humilité et ce désir de consoler et d'encourager. Plus, frères et sœurs, nous devenons comme Barnabas dans son encouragement des autres, plus l'Église de Dieu sera forte et soudée. Plus les gens aimeront être parmi nous, a semblé qu'ils accueillent bien dans cet esprit, cet état d'esprit. Et je suis convaincu que plus nous sommes comme ça, plus Dieu ajoutera de la croissance dans son Église. Il veut appeler les gens quand ils pourront être bien accueillis au sein de son Église. Alors, mes frères et sœurs, fixons-nous le but, tous, d'être des fils et des filles d'encouragement et de consolation.